Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour, quelle grande joie de vous retrouver, mais triste de ne pas avoir Francis Laloupo avec nous cette semaine. Il sera de retour la semaine prochaine. Les démêlés judiciaires de Vincent Bolloré peuvent-elles menacer, voire compromettre ses intérêts en Afrique? L'homme d'affaires français a été déféré devant les juges d'instruction après 2 jours de garde à vue. Il est soupçonné de corruption autour de l'attribution de concessions portuaires à son groupe au Togo et en Guinée. Sans viser les plus hautes autorités de ces deux pays, pour l'instant, elles se font plutôt discrète. Le pouvoir béninois doit-il avoir peur de la coalition de Diefa, du nom de ce village béninois situé près de Cotonou et un des fiefs de l'homme d'affaires Sébastien Adiavon en froid avec le gouvernement Talon? C'est donc dans ce village que certaines figures de l'opposition et 2 anciens chefs d'État se sont réunis en milieu du mois pour créer une coalition en vue de préparer la bataille pour les législatives de l'année prochaine. Objectif, battre le président Patrice Talon et ses alliés. Le pouvoir a-t-il des raisons de se méfier de cette coalition? Son poids politique, analyse dans ce débat. Mohamed Salah sur les pas de George Weah, le footballeur égyptien sacré meilleur joueur du championnat anglais après une saison magistrale avec son club Liverpool, a bénéficié de tous les qualificatifs positifs, sublime, talentueux, impressionnant, exceptionnel, phénoménal. Avec ses qualités, certains spécialistes du football, bien sûr je n'en fais pas partie, voient en lui le successeur légitime de George Weah au titre de Ballon d'Or. On verra si nos invités sont d'accord. Notre grand invité cette semaine est Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, principal parti d'opposition. Bonjour docteur Fofana.
Bonjour, bonjour la grande radio, bonjour à vos milieux d'auditeurs.
Merci beaucoup. Pour ne pas frustrer Africa numéro 1 Paris, disons bonjour aux grandes radios puisque nous sommes en partenariat avec Africa numéro 1 Paris. Et avec nous également Georgette Evelyne Amen-Yélian Kenoum qui est directrice de publication du quotidien Kini Kini. C'est au Bénin. Bonjour Georgette.
Oui, bonjour chers consoeurs, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment de par le monde entier.
Merci beaucoup d'être avec nous et brève présentation de notre grand témoin, Fodé Oussou Fofana est le vice-président, je le disais, de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, et président du groupe parlementaire libéral démocrate à l'Assemblée nationale de Guinée. Docteur en pharmacie, vous avez dirigé pendant 14 ans, docteur Fofana, l'Ordre des pharmaciens de Guinée de 2006 à 2009, vous avez occupé le poste de président de l'Inter-Ordre des pharmaciens d'Afrique. Sur le plan politique, vous avez été lors des présidentielles de 2010 et de 2015 directeur de campagne du président de votre parti, Seloud Alain Diallo, qui est par ailleurs chef de file de l'opposition guinéenne. Merci d'être avec nous, docteur Fofana. C'est un portrait en raccourci. Hein. Est-ce que vous souhaitez y ajouter quelque chose?
Non, mais je pense que ça va. Ça résume un peu ma carrière et ma position politique. C'est vrai que je suis aussi président du groupe parlementaire des libéraux démocrates.
Je l'ai dit.
Avec 37 députés à l'Assemblée nationale. Donc voilà, résumer un peu mon parcours.
Merci beaucoup.
Sur le plan professionnel et sur le plan politique.
Merci docteur Fodé Oussou Fofana, vous serez donc notre grand témoin. Le nom de Vincent Bolloré n'est pas étranger aux Guinéens. Le groupe de l'industriel français a été cité après la résiliation en 2011 avec effet immédiat et sans préavis par le président Alpha Condé du contrat de concession du terminal à conteneurs du port de Conakry attribué 3 ans plus tôt à Nekotrans. L'entreprise française avait dénoncé la rupture de ce contrat. Vincent Bolloré a donc été déféré devant les juges d'instruction sur des soupçons de corruption autour de l'attribution de concessions portuaires à son groupe au Togo et justement en Guinée. Écoutez les précisions du correspondant de BBC Afrique à Paris, Nadir Dienad.
Alors, après plus de 30 heures de garde à vue, Vincent Bolloré ainsi que Gilles Alix, directeur général du groupe Bolloré, et Jean-Philippe Doran, responsable du pôle international chez Havas, se retrouvent devant les juges parisiens Serge Tournaire et Aude Burezi pour un interrogatoire de première comparution. À l'issue de cet interrogatoire, Vincent Bolloré ainsi que les 2 autres cadres du groupe pourraient être mis en examen pour trafic d'influence, voire pour corruption active d'agents publics étrangers. Et sachez que le 4e homme placé en garde à vue, l'homme d'affaires français Francis Pérez, patron de Pefaco, société spécialisée dans l'hôtellerie et les jeux très implantés en Afrique, a pour sa part été remis en liberté peu après 14 heures. sans charge retenue contre lui. Alors pour l'instant, aucune réaction de la part des avocats et du porte-parole du groupe Bolloré après la fin de cette garde à vue.
Voilà, Najed Djenad, le correspondant de BBC Africa à Paris. Alors, certains en Guinée, Dr Fofana, avaient affirmé après le renvoi de Neco Trans que le président Alpha Condé, qui aurait bénéficié du soutien de l'agence de communication du groupe Bolloré pendant sa campagne électorale pour la présidentielle de 2010. Présidentielle d'ailleurs remportée dans des conditions très contestées devant Seluda Alain Diallo, que le président Condé faisait donc un retour d'ascenseur à l'homme d'affaires. Est-ce que cette conviction était plus forte aujourd'hui aux yeux de l'opposition, alors que Vincent Bolloré est inculpé notamment pour corruption d'agents étrangers, Dr Fofana?
Absolument, parce que le nom de Vincent Bolloré est connu de l'ensemble des Guinéens. C'est un peu comme le nom de Bernard Kouchner, qui sont considérés comme des amis, des proches collaborateurs de M. Alpha Condé. Et ce que les Guinéens ont aussi retenu, c'est le fait
Bernard
que...
Kouchner, précision, le ancien ministre des Affaires étrangères
absolument, français. Qui est considéré comme étant le frère jumeau de M. Alpha Condé, le président de la Guinée. Les Guinéens ont été surpris de la campagne de M. Alpha Condé au second tour de l'élection présidentielle. Parce que M. Alpha Condé, au premier tour, n'avait eu que 18%. Et tout le monde savait qu'il avait des difficultés sur le plan financier. Au second tour, on a vu un autre M. Alpha Condé avec des panneaux publicitaires sur l'étendue du territoire national. On nous sommes posé la question. Aujourd'hui, nous avons la preuve que si M. Alpha Condé est parvenu à faire une campagne féroce comme ça, c'est qu'il a eu de l'appui. Entre autres, certainement, je n'ai pas encore la preuve, puisqu'il faut le dire comme ça, certainement avec l'appui de M. Bolloré. Mais qu'est-ce qu'il faut dire?
Ce sont encore des présomptions.
Oui, absolument. Ce qu'il faut dire, c'est que M. Alpha Condé, depuis qu'il est élu en 2010, il est reconnu comme un président qui marche avec ce que nous appelons les marchés de gré à gré. La quasi-totalité des marchés qui ont été octroyés au temps de M. Alpha Condé ont été des marchés de gré à gré. Et qui parle de marché de gré à gré, absolument, parle de certainement de corruption, de doute. Si nous prenons le cas du marché de M. Bolloré, il faut dire que le 31 juin 2008, une commission interministérielle, évidemment, conformément au code du marché public en République de Guinée, a procédé à l'évaluation des offres internationales pour la mise en concession du terminal conteneur de la République de Guinée. Il y a quatre sociétés qui avaient soumissionné. Il y avait le groupe Bolloré, il y avait l'APM Terminal, Jetma International et le TCB. Après dépouillement des résultats, le classement était le suivant, Jetma International était premier, Bolloré était deuxième. Donc, Jetma a eu un contrat signé du gouvernement guinéen après une commission interministérielle et Jetma International avait engagé 7,5 millions d'euros à l'époque sur les 15 millions qui représentaient les tickets d'entrée. Cette précision, elle est importante. Il faut le dire qu'il y a eu un appel d'offres. Je ne sais pas, est-ce que Jetma aussi a fait de la corruption financière, parce qu'à l'époque, je ne faisais même pas de la politique, mais reste entendu...
C'était sous quel Premier ministre? C'était sous Lansana Kouyaté ou Ahmed Tidiane Souaré?
Ahmed Tidiane Souaré.
D'accord.
Ça veut dire qu'il y a eu 7,5 millions d'euros qui ont été payés sur les 15 millions qui étaient considérés comme les tickets d'entrée. Le conseil du ministre s'est réuni le 11 décembre 2008, non seulement a approuvé le contrat, mais a autorisé aussi Bolloré à commencer l'exécution. Le code des marchés publics de la Guinée est très clair. Si Jetma International ne respecte pas les clauses du contrat, le gouvernement a le droit de dénoncer. Mais ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est que non seulement il n'y a pas eu de lettre de sommation vis-à-vis de Jetma International, mais le président Alpha Condé s'est permis de prendre un décret, annuler non seulement le décret de Jetma International, mais octroyer...
C'est-à-dire Nécotrans.
Nécotrans, exactement, Nécotrans. Annuler le contrat de Nécotrans et prendre un autre décret, donner un contrat à Bolloré. Dans quelles conditions personne ne sait. Et ça viole le code des machines.
Mais après l'affaire judiciaire de Bolloré, ou bien lorsqu'il a été placé en garde à vue, le gouvernement a réitéré à travers un communiqué que le contrat avait été signé en bonne et due forme, dans de bonnes conditions. Et puis, dans le décret du président, on avait aussi expliqué les raisons pour lesquelles le gouvernement, le président, avait mis un terme au contrat de Nekotrans, donc, qui était accusé de n'avoir pas respecté ses engagements.
Écoutez, même si Nekotrans International n'avait pas respecté ses engagements, il est de la responsabilité du gouvernement, selon le code des marchés publics interdits, de faire un appel d'offres. Ce qu'ils ont fait, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Sans faire d'appel d'offres, dire, puisque Bolloré avait été deuxième dans le premier appel d'offres, donc il donne automatiquement le contrat à Bolloré.
Mais l'être deuxième pourrait être considéré comme, étant, comme une personne qui est sur la liste d'attente. Pourquoi faire à nouveau un appel d'offres alors que...
Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Un appel d'offres a été donné. On a exécuté un appel d'offres. Il y avait quatre qui avaient soumissionné. Jetman, Nekotrans a non seulement été le premier, mais le gouvernement Nekotrans a commencé à fonctionner. Nekotrans a payé les tickets d'entrée. Le conseil interministériel a validé la convention de Nekotrans. Si jamais Nekotrans ne respecte pas les clauses du contrat, c'est normal que le gouvernement guinéen dénonce. Mais ce qu'on devait faire, c'était simple. Hein. Essaie de faire un appel d'offres international.
D'accord.
Donner la possibilité à Bolloré, donner la possibilité aux autres de solutionner.
À nouveau. Relancer la compétition. Alors, docteur Fofana, après ces explications, qu'est-ce que vous en déduisez pour qu'on avance?
Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes considérés comme étant l'un des pays les plus corrompus. Je vous ai dit, nous sommes dans une situation compliquée. Monsieur Alpha Condé ne fait que des marchés de gré à gré. La quasi-totalité.
D'accord. Si on revient sur ce contrat avec le groupe Bolloré, en son temps, vous venez de dire que le Premier ministre Soaré était en poste. En son temps, est-ce que le Premier ministre lui-même a dénoncé cette attitude que vous considérez d'inappropriée du président, cette décision du président? Et qu'a fait l'opposition à ce moment-là, puisque cela est arrivé alors que le président... M. Seloud Alain Diallo venait de perdre l'élection présidentielle. Qu'est-ce que l'opposition a fait pour dénoncer l'attitude du pouvoir ou du président Alpha Condé?
Non seulement nous avons dénoncé, nous avons communiqué là-dessus, nous avons dit que ce n'était pas normal, et dans le fond et dans la forme. Il faut dire ceci, je ne peux pas aujourd'hui affirmer que Nekotrans a eu le contrat sans corruption. Je ne peux pas le dire puisque je n'étais pas proche du dossier à l'époque. Mais même s'il y a eu corruption, c'est que Nekotrans a eu le contrat. Ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est le fait que M. Alpha Condé, en tant que président, se donne la liberté d'octroyer des marchés à ses amis sur la base de rien. Parce que ça, ce n'est pas possible. C'est indépendable.
Le contrat étant déjà passé, M. Fofana, ce n'est pas de cela qu'il est question aujourd'hui. La réalité, ce dont il est question, c'est l'inculpation de Vincent Bolloré en rapport avec cette affaire, c'est-à-dire l'attribution du marché. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conséquence? Puisque vous dites que, alors que le président Alpha Condé, candidat en 2010, était en difficulté au premier tour, s'est retrouvé au second tour avec des moyens beaucoup plus importants et que cela peut être grâce à l'aide de Bolloré. Quelles conséquences faut-il tirer si cela a été avéré?
Mais les conséquences, aujourd'hui, Bolloré est devant la justice française. Je suis plutôt convaincu que cette justice française va essayer de connaître les gens qui sont impliqués dans ce problème de corruption. Est-ce qu'il y a corruption? Oui, il y a corruption. À quel degré? Je n'en sais rien.
Donc vous pensez que la responsabilité du président est engagée dans cette affaire?
Ah oui, la responsabilité du président Alpha Condé est engagée entièrement. Et Alpha Condé et tous les conseillers qui l'ont demandé de prendre un décret donné en ne respectant pas le code du marché public, donner ce marché à Bolloré. Moi, j'ai confiance à la justice française.
Mais pour l'instant, le président est encore en fonction. Et rien n'indique qu'il pourrait être inquiété, étant donné que son nom n'est pas cité dans l'affaire.
Écoutez, il est quand même le président de la Guinée. Il s'agit tout simplement, dans ce cas-là, de demander à M. Bolloré Vincent comment il a eu le marché du port conteneur de Conakry. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Je dis non. Comment il a eu? Il est passé par quel moyen pour que le président de la République fasse un décret pour l'octroyer?
Mais pourquoi pour vous, ne pas avoir fait un appel d'offres signifie forcément qu'il y a eu corruption?
Absolument. Non, mais ça veut dire que le code de marché...
Alors que vous-même, vous dites que rien n'indique que l'attribution du marché à Nécotrans également n'était peut-être pas... l'attribution n'était pas si saine que ça. Pourquoi est-ce que vous faites une fixation en estimant que, comme il n'y a pas eu d'appel d'offres, il y a eu forcément corruption?
Nécotrans a eu ce marché après un appel d'offres. Clair. Bolloré n'a pas eu d'appel d'offres. Bolloré a eu le décret de son ami qu'on appelle M. Alpha Condé. Comment vous dites que le code, la loi, ce n'est pas de l'amusement. On a un code de marché public qui dit effectivement comment on doit donner marché. Je vous ai dit, j'insiste là-dessus. Si M. Alpha Condé a pris un décret, on considère que ça n'a pas respecté les règles de l'art.
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? On va écouter la consoeur Georgette sur ce sujet. Que demande l'opposition guinéenne aujourd'hui, étant donné que votre candidat était en lice lors de l'élection de 2010, qu'il avait perdu justement devant Alpha Condé, qui aurait bénéficié du soutien de l'agence de communication du groupe Bolloré?
Écoutez, d'abord, en tant que député et président du groupe parlementaire, je l'ai dit clairement, nous allons nous retrouver au niveau de notre groupe parlementaire, demander une enquête parlementaire par rapport à ce dossier de Bolloré. Deuxièmement, au niveau du UFDG, nous allons nous retrouver autour du président Sédou Dalin, regarder, examiner, parce que nous comprenions maintenant pourquoi M. Alpha Condé au second tour s'est permis de faire une campagne au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et troisièmement, nous demandons à la justice française de continuer les enquêtes et que nous allons pouvoir collaborer, nous allons mener encore des enquêtes. Lorsque nous aurons des éléments de preuve, nous allons les mettre certainement à la...
C'est-à-dire que l'UFDG compte ouvrir sa propre enquête?
Ah oui, absolument. Il faut qu'on ouvre notre propre enquête parce que vous imaginez comment l'élection de 2010 s'est passée. Nous avons été, M. Sédou Dalin avec 44%, M. Alpha Condé avec 18%. Au lieu de 2 semaines, nous sommes restés 4 mois à organiser ces élections. Mais évidemment, M. Alpha Condé et ses amis à l'extérieur se sont retrouvés pour mettre beaucoup d'argent à la disposition de M. Alpha Condé. Nous sommes retrouvés dans cette situation.
Mais le report, excusez-moi, n'était pas forcément le fait du président candidat Alpha Condé. Voilà, on ne va pas refaire les élections. On va écouter Georgette Evelyne sur ce sujet. Alors, Georgette, pourquoi c'est seulement maintenant, alors que les affaires pour lesquelles M. Bolloré est inculpé ne sont pas récentes, pourquoi c'est seulement maintenant que la justice est activée? Par exemple, la perquisition au siège de sa société a eu lieu en 2016. Il a fallu 2 ans pour qu'il y ait cette inculpation.
Bien sûr. Vous savez quoi? La justice dispose certes d'un délai pour agir, mais le délai de prescription n'est pas encore épuisé. Et donc, nous sommes encore dans la période au cours de laquelle la procédure doit pouvoir suivre son cours afin que nous puissions, les peuples togolais, les peuples guinéens et tous les autres peuples de l'Afrique puissent avoir accès à la vérité dans ce dossier. Il est vrai qu'aujourd'hui on parle de soupçons. Certes, on se demande pourquoi la justice n'a pas agi hier, pourquoi elle n'a pas attendu demain pour agir, mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut bien que la justice agisse un jour, et c'est le moment qu'elle choisit pour le faire. Sur le timing, je n'ai pas d'observation particulière,
Merci. Mais
sur le fond du dossier, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait que la vérité triomphe.
Merci, on va marquer une pause.
Le débat Africa BBC.
Vous écoutez le débat BBC Africa numéro 1 Paris. Cette semaine, notre invité est Dr Fodé Ousso-Fofana, qui est le vice-président de l'UFDG, principal parti d'opposition en Guinée. Vous êtes accompagné, Dr Fofana, de Georgette Evelyne Amène-Yélian-Kenoum, directrice de publication du quotidien béninois Kinikini. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur bbcafrique.com et africa1.com, puis réagir réagir sur la page Facebook de l'émission. L'adresse est facebook.com/débat BBC Africa. On va poursuivre le débat avec vous. Georgette, vous disiez que sur le timing, vous n'en savez rien. Mais est-ce que peut-être on peut lier cela au démêlé judiciaire que connaît Nicolas Sarkozy, qui est présenté comme un ami très proche de Vincent Bolloré?
Je pense qu'il n'y a pas officiellement de connexion établie entre les deux dossiers, et la justice aura l'occasion de nous dire s'il y a une connexion. Mais ce qui est sûr, c'est que cette amitié est présumée. Ça se dit, mais il est vrai qu'il est difficile de prouver une amitié quelconque, parce qu'en dehors de ce que tout le monde sait, les amis, seuls eux-mêmes savent ce qu'il est dit réellement. Il est vrai que l'interpellation de le placement en garde à vue de Vincent Bolloré intervient dans un contexte marqué également par les démêlés judiciaires de son ami Nicolas Sarkozy. Mais je voudrais vraiment que nous séparions les deux affaires, que nous n'allions pas.
Il n'y a pas de lien selon vous. Merci, Georgette. Docteur Fofana, sur ce timing, est-ce que vous êtes d'accord avec Georgette qu'il n'y a pas de lien possible entre les deux dossiers, même si certains prêtent aux deux hommes, c'est-à-dire l'ancien président Nicolas Sarkozy et Vincent Bolloré, une relation très proche?
Écoutez, je partage entièrement l'avis de votre consoeur. Ça veut dire que s'il n'y a pas de preuves pour dire qu'il y a un lien entre les deux dossiers, je pense que ce n'est pas la fin de s'aventurer là-dessus. Et moi, je le dis encore clairement, à titre personnel, moi-même, à titre personnel, nous n'avons aucun problème, si vous voulez, avec M. Bolloré. Nous laissons la justice française s'occuper de ce financement. Mais ce que nous disons et que nous pouvons confirmer, c'est qu'il y a effectivement corruption en Guinée.
Corruption présumée, pour l'instant, docteur Fofana.
Présumée en Guinée, parce que nous considérons que le marché qu'il a eu n'a pas été fait dans les règles de l'art.
D'accord. Donc vous dites que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, mais rien n'indique que parce que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, il y a eu forcément corruption. Mais l'opposant togolais, Nathanaël Olympio, a déclaré sur la BBC, docteur Fofana, que ça c'était pour le cas du Togo, que le contrat État togolais et le groupe Bolloré devait être rendu public pour apaiser ou apaiser certaines craintes. Est-ce que vous êtes dans la même logique, même si vous venez d'énumérer un certain nombre de choses que vous allez entreprendre dans le cadre de cette affaire? Est-ce que vous pensez que le contrat, le contenu du contrat entre l'État guinéen et le groupe Bolloré doit être rendu, doit être publié?
Écoutez, non seulement il faut publier, mais il faut aussi que le gouvernement explique au peuple de Guinée, au Bondaki, comment Bolloré a eu le marché. Je vous dis que c'est aussi simple que ça. Quand vous, l'inconvénient de faire des marchés de gré à gré, c'est que ça crée des doutes. Comment ça se passe? Sinon, la loi est très claire. Je vous dis que nous avons un code de marchés publics. Ce code-là doit être respecté. On connaît en Guinée qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les conditions que les gens doivent remplir, comment on fait un appel d'offres. Dès qu'on contourne la procédure, c'est qu'on crée des doutes. C'est en cela que nous disons que nous-mêmes, en tant que Guinéens, nous avons vu M. Bolloré et M. Alpha Condé main dans la main en train de visiter le port autonome. Et puis le lendemain, M. Alpha Condé prend un décret pour dire que celui de Necotrans International est annulé et qu'il a donné le contrat à son ami qu'on appelle Bolloré. Voilà les termes. Je donne le contrat du port autonome à mon ami. Il reste sans dire à partir de cette instant-là. Nous disons que ça n'a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas respecté les règles là. On ne peut pas fonctionner, on ne peut pas gérer un pays en faisant des marchés de gré à gré. Voilà ce que nous disons. C'est pour ça que nous encourageons vraiment la justice guinéenne à la justice française à continuer les enquêtes.
Donc vous voulez aussi dire qu'au-delà de ce que l'opposition compte faire, la justice guinéenne devait aussi s'autosaisir ou bien se saisir de l'affaire?
Mais c'est ça la logique. Depuis qu'on a commencé ce dossier de Bolloré, honnêtement, à part la conférence de presse de l'ancien ministre général, M. Kera, qui n'a pas de crédibilité dans ce pays, à part cette conférence, on n'a pas entendu le gouvernement. Le ministre de la Justice devait faire une communication immédiatement pour expliquer au peuple de Guinée de quoi il s'agit. Mais le gouvernement ne dit rien. Alors nous considérons que s'il ne dit rien, consent.
Vous estimez que c'est un silence suspect ?
Absolument.
D'accord. Cette affaire, d'après vous, docteur Fofana, est-elle susceptible, disons, de réduire l'influence supposée ou réelle qu'on prête au groupe Bolloré en Afrique ? Autrement dit, est-ce que cette affaire judiciaire peut-elle avoir une quelconque incidence ou peut-être même peut-être compromettre ses affaires en Afrique ?
Écoutez, en tout cas, en ce qui concerne la Guinée, je ne dis pas sur le plan africain, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais je dis, et en ce qui se passe dans mon pays, la Guinée, aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance à Bolloré, n'ont plus confiance vraiment à la présence de M. Bolloré dans, au niveau de notre pays, parce qu'on considère qu'il s'est mêlé des problèmes internes. Et maintenant, si la justice confirme qu'effectivement il y a une corruption, ça, ça devient encore très grave. Et s'il est prouvé que M. Bolloré a aidé le candidat Alpha Condé au second tour de l'élection présidentielle en mettant les moyens, et que c'est pour ça qu'il a eu le contrat du port conteneur, là, ça devient très grave. Parce qu'on est en train de faire un lien entre la campagne de M. Alpha Condé. Ça veut dire que l'argent qu'il a reçu, l'aide qu'il a reçue de M. Bolloré, qui est confirmée, est-ce que c'est pour ça que M. Alpha Condé, en compensation, a donné le marché du port autonome? Si ça s'est établi, ça devient très grave.
C'est-à-dire?
Mais ça devient très grave. Ça veut dire que, évidemment, il faut que M. Alpha Condé s'explique. Sinon,
c'est-à-dire qu'il démissionne s'il est établi qu'il a bénéficié en 2010 pour sa campagne électorale des financements du groupe Bolloré?
Absolument, parce que c'est pas normal. Vous savez, quand vous allez en compétition, il y a des règles, il y a des limites.
Mais si on commence comme ça à fouiller dans les fonds de campagne des candidats, est-ce que le vôtre aussi ne pourrait pas être inquiété? Parce qu'aujourd'hui, on parle de Alpha Condé, mais on ne sait pas ce qu'il en est des autres candidats. Est-ce que ce ne serait pas ouvrir une boîte de Pandore?
Nous demandons à tous ceux qui veulent enquêter dans la campagne du président Seldane, j'en parle parce que je suis le directeur de campagne de Seldane. Je sais que tout ce que nous avons utilisé, nous l'avons obtenu légalement par l'apport de l'ensemble des militants à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, c'est très clair. Les montants sont connus. La comptabilité est déjà faite. Nous avons les dossiers. Nous savons exactement ce que nous avons dépassé. Ce n'est pas comme la campagne de M. Alpha Condé au second tour de l'élection présidentielle. À chaque 5 mètres, vous avez un panneau publicitaire de M. Alpha Condé. On a vu sa campagne au premier tour. Entre la campagne du premier et le second tour, c'est même pas la même chose.
D'accord. On a entendu, docteur Oussou Fofana. On marque une pause. Prochain sujet, le Bénin.
Le débat, BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la suite du débat BBC Africa Africa numéro 1 Paris, toujours avec notre grand témoin, Dr Fodé Oussou Fofana, qui est le vice-président de l'UFDG, principale formation politique d'opposition en Guinée, et Georgette Evelyne Amen Yélian Kenom, qui est directrice de publication du quotidien Kini Kini au Bénin, est également avec nous pour écouter l'émission. Si vous avez raté la diffusion en FM, vous pouvez donc aller sur bbcafrique.com ou africa1.com, puis partagez vos commentaires avec nous sur la page Facebook de l'émission. L'adresse est facebook.com/débat-bbc-africa. Le Bénin traverse-t-il une grave crise comme le soutient une partie de l'opposition? Celle-ci accuse le président Patrice Talon d'en être responsable. En cause, une gouvernance caractérisée, selon l'opposition, par de graves conflits d'intérêts, une opacité totale, des privatisations dites sauvages, des licenciements massifs, le refus d'un dialogue franc avec les travailleurs ou encore l'attaque frontale contre la justice et même les libertés fondamentales. Les anciens présidents Nicéphore Soglo et Thomas Boniaï ont donc décidé de se rapprocher de l'opposant Sébastien Adiavon avec pour objectif clair de remporter les futures législatives et influencer les décisions et choix politiques à venir. Je commence avec vous, Georgette Evelyne. Je viens de citer une série de griefs de l'opposition contre le pouvoir actuel. Ces griefs sont-ils fondés, vous qui êtes au Bénin?
Je ne vais pas peindre le tableau en noir, comme le fait la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. Une coalition qui est bien dans son rôle, parce qu'elle se constitue, bien évidemment, de ceux qui semblent contents de la gestion de Patrice Talon. On lui reproche une certaine opacité dans la gestion des affaires. On reproche la confiscation des libertés fondamentales, mais les libertés démocratiques au Bénin ne sont pas si menacées que ça. La liberté d'expression, nous l'avons, la liberté d'association, la liberté de manifestation, même si on note une certaine tendance du pouvoir en place à contenir ou à réprimer.
Donc vous dites que l'opposition peint un tableau délibérément trop sombre de la situation au Bénin ?
Oui. Allô ?
Oui, j'ai dit, vous êtes en train de nous dire que l'opposition exagère et qu'elle peint délibérément un tableau trop noir de la situation politique au Bénin ?
Je ne vais pas utiliser le verbe exagérer, mais je dirais tout de même qu'il y a un effet de grossissement, un effet d'amplification de la réalité. La réalité est là, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas tout sombre non plus.
Mais qu'est-ce qui est vrai dans ce que dit l'opposition en fin de compte ?
Ben,
sur quel plan y a-t-il eu de réel recul depuis l'arrivée en 2016 au pouvoir du président Talon ?
Ben, écoutez, au temps de Boni Yayi, nous avons vu des manifestations de mécontentement du peuple réprimé dans le sang. Nous avons vu des forces de l'ordre débarquer à la Bourse du Travail de Cotonou pour mater les syndicalistes. Nous avons même vu des gens qui aujourd'hui se réclament de l'opposition à la tête du Fonds pour le sursaut patriotique. Nous les avons vus sortir dans le sang et défendre justement ces répressions-là contre les syndicalistes. Ils étaient à ce moment-là au ministère de l'Intérieur, dans l'administration de Boni Yayi. Aujourd'hui, il faut juste dire que les acteurs politiques ont changé de camp, ont changé de place, et donc les rôles s'inversent, c'est tout.
D'accord. Mais il y a justement les partisans du président Boni Yayi qui estiment que toute cette alliance qu'on voit entre les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi avec Sébastien Adiavon, c'est une alliance de façade qui est simplement électoraliste et que personne n'est dupe parce que l'enjeu est essentiellement électoral.
Oui, il faut dire que l'enjeu est essentiellement électoral, mais ce que cette coalition dite de Jeffra nous montre, c'est d'abord la critique d'abord de l'affaire gouvernementale. Ensuite, le second pan de l'appel de Jeffra, l'appel qui a été lancé à toute la classe politique béninoise ce 14 avril 2016, donc à Jeffra, le second pan concerne des exigences relatives au respect de la Constitution du 11 décembre 1990. Et quand on parle de respect de la Constitution, que l'on soit de l'opposition ou de la mouvance, on devrait se sentir concerné, on devrait être concerné.
D'accord. On va revenir, Georgette, tout à l'heure au poids politique de cette coalition anti-Talon. Je voudrais écouter le docteur Oussou Fofana sur cette situation politique au Bénin. D'après la consoeur, l'opposition exagère un peu, mais voir quand même deux anciens présidents qui rallient le principal adversaire du chef de l'État actuel, il s'agit bien sûr de Sébastien Adiavon, arrivé troisième lors des présidentielles de 2016. Est-ce que ça ne peut pas donner l'impression que la crise politique est vraiment sérieuse au Bénin?
Écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que moi, en tant que Guinéen, je considère le Bénin comme étant un modèle de démocratie. Je vous le dis parce que je suis en Guinée, je suis de l'opposition. Je sais comment M. Alpha Condé gère la Guinée. Je sais que depuis que M. Alpha Condé est arrivé au pouvoir, les élections n'ont jamais été organisées à date. Depuis que M. Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il a implodé toutes les institutions à son niveau. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, nous avons enterré 94 jeunes qui ont été tués à balles réelles lors des différentes manifestations. Alors, quand je suis Guinéen et je regarde un peu le Bénin, je me dis, au moins, au Bénin, ça va. au moins au Bénin, les gens sont capables de manifester.
Donc vous pensez aussi, comme la consoeur, que l'opposition béninoise exagère?
Non, je ne dis pas ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que comparativement à mon pays, à la Guinée, avec la gouvernance de Chaka Kone, je peux dire que les Béninois sont heureux. Maintenant, par contre, je suis en train de lire, je pense que M. Kalon était l'espoir du peuple africain. Quand il est arrivé au pouvoir, il a d'abord dit qu'il fera un seul mandat. J'espère qu'il va respecter...
Ce n'est plus à l'ordre du jour. Voilà, je crois que la consoeur le confirma tout à l'heure. Il n'est plus question d'un seul mandat, comme il avait promis quand il était candidat.
Non, mais je considère qu'un homme d'honneur doit pouvoir respecter ses engagements. Quand on ne respecte pas ses engagements, on n'est pas un homme d'honneur. Deuxièmement, nous savons l'histoire de M. Kalon. Nous savons ce qu'il a vécu avec
Boni Yayi.
Nous savons qu'il a été assis, nous savons qu'il a été abusé. Donc, c'est inacceptable qu'il adopte le même comportement. Et c'est lui-même, par les mêmes méthodes, que sa fille, son principal adversaire, a été un allié à lui. Je considère que ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il faut que les chefs d'État africains prennent de la hauteur, qu'ils comprennent que quand ils ont un mandat, ils doivent gérer. La démocratie, ce n'est pas de l'amusement. Je pense qu'il est en train de décevoir aujourd'hui la majorité des Africains qui avaient confiance en lui. Il faut qu'il remette la balle à terre, il faut qu'il parvienne à ouvrir la possibilité de discuter avec les opposants de son pays, il faut qu'il gagne l'image d'un homme qui a souffert avant d'arriver au pouvoir, et c'est un homme qui s'est engagé à faire du Bénin un pays véritablement démocratique. S'il fait le contraire, il rentrera dans l'histoire par la petite porte.
D'accord.
Mais reste entendu que le Bénin, comparativement à la Guinée,
l'opposition est mieux lotie. L'opposition béninoise est...
Non seulement mieux lotie, mais les Béninois, en matière de démocratie, peuvent se sentir heureux. Ils n'ont qu'à venir faire même 2 semaines à Conakry, ils comprendront c'est quoi la gouvernance de M. Alpha Condé.
Peut-être qu'on instaurera un échange d'expériences entre opposants des différents pays en Afrique. Alors, Georgette, quand vous entendez tout cela, je crois que cela vous conforte, puisque vous venez de dire que... j'ai cru entendre dans vos propos que vous dites que l'opposition en fait un peu trop. Mais quand l'opposition attaque le président Talon sur les listes électorales, en évoquant par exemple le fait que malgré les injonctions de la Cour constitutionnelle, le président n'a toujours pas installé le conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée appelée COSLEPI. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même un point que l'opposition relève ici légitimement et qu'elle a peut-être le droit de soupçonner le président Talon d'avoir de mauvaises intentions par rapport aux prochaines élections législatives?
Bien sûr, et cela est tout à fait normal dans la mesure où l'opposition, l'existence de l'opposition et la veille qu'organise l'opposition est une chose indispensable en démocratie. En démocratie, lorsque l'opposition ne réagit pas, lorsqu'elle ne tape pas du poing sur la table, lorsqu'elle ne tire pas la sonnette d'alarme en cas de danger, elle n'a pas sa raison d'être. Et le fait de la naissance même de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin témoigne de la vitalité de la démocratie donc béninoise.
D'accord, mais si on revenait sur ce point, du refus du président d'exécuter, de mettre en pratique une décision de la Cour constitutionnelle qui, à principe, n'est plus susceptible d'appel.
Non, mais écoutez, il n'y a pas eu un refus explicite du président de la République de ne pas mettre en application les injonctions de la Cour constitutionnelle, faites d'ailleurs par décret DCC-17-262, je crois, d'octobre ou de novembre 2017, qui faisait injonction au Parlement de désigner ses représentants au COSLEPI au plus tard le 21 décembre 2017 et d'installer le COSLEPI au plus tard le 29 décembre 2017. Il n'y a pas eu de refus express, mais il y a eu quand même un refus tacite. Et c'est justement contre le refus tacite que l'opposition a donné de la voix. Et il faut dire qu'avant l'opposition, il y a le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ouédine, qui est quand même de la mouvance présidentielle, qui a le mérite d'avoir déclaré ce 10 avril ou ce 9 avril, si j'ai bonne mémoire, 2018, à l'occasion de l'ouverture des travaux de la première session parlementaire de l'année, que les décisions de la Cour doivent être impérativement mises en œuvre.
Donc l'opposition a raison, selon vous, de suspecter le président Talon de mauvaises intentions?
Oui, quelque part, l'opposition.
Parce qu'elle a même demandé de faire procéder à un audit préalable de la liste électorale en vue de ces élections.
Oui, mais même l'aspect de la déclaration de la coalition Adjefa qui montre qu'il y a quand même des suspicions, c'est le point 3 de la déclaration qui dit, je vous cite, « Mettons en garde l'Assemblée nationale contre toute velléité visant à faire remplacer la LEPI par une liste extraite du RAVIT. » Il faut dire que le RAVIT, c'est le recensement administratif qu'est en train d'organiser actuellement le gouvernement. Alors, l'opposition pense que si elle se tait, que si elle cautionne...
Rapidement, Georgette, pour terminer.
Oui. Non, mais je disais que l'opposition se disait que si elle cautionnait la non-installation du COSLEPI, alors le président pourrait aller aux élections avec une liste extraite du RAVIT. Donc, elle a mis l'Assemblée nationale en garde contre cela, mais il y avait plus de peur que de mal. Aujourd'hui, l'Assemblée a désigné ses membres représentant le Parlement au COSLEPI. Le gouvernement en a fait de même.
D'accord. Vous parlez de vendredi, ce vendredi 27 avril, au moment où nous enregistrons l'émission. Rapidement, Georgette, un mot sur le poids politique de cette coalition anti-Talon. Est-ce qu'elle a une assise? Elle est susceptible de remporter les prochaines élections législatives?
Oui, mais cette opposition, si elle restait soudée, parce qu'au Bénin, sur l'échiquier politique, rien n'est jamais stable. Hein? Tout est question de négociation et tout est question d'intérêt du moment.
Et les alliances peuvent basculer d'un moment à l'autre.
Oui, les forces en présence avec Boni Yali dans le septentrion, Tchaourou Parakou, les départements du Borgo et de la Libourie, ils pourraient avoir quelques députés. Dans le Mono, Sébastien Adjavon lui-même a une certaine assise. Dans le département de l'Ouémé, Sébastien Adjavon également est présent. Il est vrai que le renard de Diregui, Albert Evoedret, n'a plus. Aujourd'hui, n'est plus à la tête d'un parti fort, voilà. Mais il pourrait tout de même rallier quand même des gens à sa cause. Dans le Zou, nous avons le président, l'ancien président, Nicéphore Soglo,
toutes ces forces cumulées et mises ensemble peuvent ont des chances de remporter les prochaines élections, si j'ai bien compris, Georgette. Nous allons passer sans transition. Vraiment en 30 secondes.
Je veux dire qu'elles ont des chances d'avoir des députés, mais remporter l'élection, je ne voudrais pas être affirmative.
D'accord. Voilà qui est plus précis. Merci, Georgette, pour cette analyse de l'actualité politique au Bénin. On va passer sans transition au dernier sujet, qui est sportif. Voici bientôt un quart de siècle que l'Afrique attend le second ballon d'or de son histoire. George Weah l'a remporté en 1995. Il reste le seul originaire du continent africain aujourd'hui. Il est devenu chef d'État du président de son pays, le Libéria. Alors l'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, consacré meilleur joueur du championnat d'Angleterre, pourra-t-il être le futur Weah? En tout cas, c'est ce que lui souhaitent et soutiennent aussi d'ailleurs certains experts du sport. Je commence par vous, docteur Fodé Oussou Fofana. J'espère que vous suivez particulièrement peut-être la carrière de Mohamed Salah. Que de superlatifs, je disais en début d'émission, pour qualifier son talent. Est-ce que cet espoir est-il exagéré, c'est-à-dire l'espoir de le voir devenir le futur ballon d'or?
Écoutez, je pense qu'il est aujourd'hui l'espoir de tout le continent africain. Il a prouvé... Par
un espoir sérieux?
Non. Hein?
Un espoir sérieux, plus que sérieux?
Non, sérieux. Non, c'est vrai, parce qu'il a vraiment marqué son temps dans un championnat qui était un championnat très relevé, le championnat de la première ligue. C'est un championnat très, très, très relevé. Et deuxièmement, sur le plan vraiment de la technicité, tout le monde est d'accord que c'est un l'excellent. Je lui souhaite vivement, en tout cas, à son club, de remporter la Ligue plutôt comme la Ligue des Champions. Parce que si jamais il remporte, Liverpool remporte la Ligue des Champions, je suis convaincu que le boulevard ouvert pour lui sera le prochain Ballon d'Or. C'est mon souhait le plus ardent. Et je veux dire aussi un appel à tous ces grands joueurs africains qui sont en Europe. C'est mieux de rejoindre les championnats de leur propre pays. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de continuer à rester dans les championnats européens, ne pas revenir à la source, jouer dans leur propre championnat. C'est à partir de là qu'ils peuvent aussi avancer.
Mais docteur Oussou Fofana, je voudrais pas dire que beaucoup de sportifs qui vous écoutent pourront esquisser un sourire quand vous entendre dire que ces joueurs doivent revenir dans leur championnat. Vous voyez Sadio Mané venir jouer dans un club sénégalais, je ne sais pas, ou peut-être Salah après être arrivé où il est, revenir dans un club égyptien.
Écoutez, vous savez, il y a beaucoup de joueurs africains qui sont en Europe aujourd'hui, qui sont en train de jouer en deuxième, troisième, quatrième division. Je m'adresse à ces joueurs-là. Évidemment, s'ils reviennent dans les championnats africains, dans leur propre pays, ils peuvent avoir l'occasion de jouer dans les championnats comme le championnat de la Ligue de l'Angleterre. Je parle de ça. Maintenant, honnêtement, vous voyez ça là, ce qu'il apporte à son propre pays. C'est parce qu'il a accepté non seulement de jouer pour son pays, mais c'est pour ça qu'il est en train aujourd'hui, sur le plan africain, d'émerveiller tout le monde.
D'accord. C'est vrai que Salah est passé par le club égyptien Arab Contractors. Voilà, avant, c'était à ses débuts, hein, en 2010. Alors, Georges, avant de passer la parole à Georgette, à quel joueur ou quel autre attaquant européen pourriez-vous comparer Salah, docteur Foudé?
Je pense que le Ballon d'Or va se jouer entre Cristiano Ronaldo et
Messi?
Salah. Non, pas du tout.
Pas Messi cette fois?
Non, Messi, c'est un grand joueur, mais qui a des handicaps, mais qui est bien dans le championnat espagnol.
D'accord.
Je pense que Cristiano Ronaldo et Salah sont les deux favoris pour le Ballon d'Or.
D'accord.
Si je devais choisir, évidemment, vous connaissez mon choix, c'est Salah.
D'accord. Enfin, la question était de savoir à quel autre joueur européen le comparez-vous, Salah. Mais vous avez répondu à notre question, mais ce n'est pas grave. Georgette, je ne sais pas si vous êtes très foot. Alors, tout ce qui a été dit sur Salah, est-ce que vous êtes convaincu, vous, que c'est le futur Ballon d'Or FIFA?
Je dirais que à force de travailler, à force d'efforts et de convictions, on pourrait, il est possible de se hisser très loin, très haut, dans l'art que l'on pratique. Salah n'est né qu'en 1992, 2018, ça nous fait 26 ans, non?
Allez-y.
26 ans, oui, sacré meilleur joueur africain quand même, de l'année 2017, et avec une belle carrière en perspective, pour moi, le rêve est permis.
Est-ce qu'il pourrait finir comme Weah, s'il arrive à être Ballon d'Or, comme Weah, est-ce qu'il pourrait, comme Weah également, être futur président de l'Égypte, un remplacement de Fadel, du président Al-Sisi? Vous l'imaginez dans la politique?
Mohamed Salah, c'est possible dans la mesure où ce sont les ambitions qui déterminent les décisions à des moments donnés. Moi, à un moment donné, je n'avais pas imaginé Georges Weah à la tête de son pays, mais aujourd'hui le voilà bien assis sur le trône quelque part. Tout est question d'ambition et
ça
suis
pourrait
déjà heureuse que Salah soit aujourd'hui en train de percer. Je pense qu'à son âge, à 26 ans, on peut tout se permettre, on peut rêver.
On peut rêver.
Et je lui souhaite une belle carrière, tout simplement.
D'accord. Donc, d'après le docteur Fofana, Cristiano Ronaldo n'a qu'à bien se tenir et que, selon lui, docteur Fofana, Messi est hors jeu pour le prochain Ballon d'Or. Nous allons à présent écouter les commentaires et réactions de nos auditeurs sur la page Facebook. Et c'est avec Eno Ndri. Tendez l'oreille, docteur Fofana. Il y a des questions qui vous concernent.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour à tous. Voici les réactions des internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. D'abord sur la Guinée, Abdoulaye Diallo se demande si le fait d'avoir cité le président Alpha Condé pourrait pousser la justice guinéenne à inculper ce dernier. Il encourage d'ailleurs la justice française à aller au bout de cette enquête. Vincent Depaul Bikobo de se positionner en défenseur du président et de dire que la justice française gagnerait à laisser les chefs d'État africains tranquilles, car selon lui, depuis l'installation de Vincent Bolloré sur le continent, rien a changé. Pour Charles Bazema, les opposants guinéens seraient coupables en partie. Il se demande pourquoi cette opposition ne s'est-elle pas prononcée avant la justice française. Et sur le Bénin, Vincent Seounou pense que la coalition Diefa ne fait pas le poids et en déduit que la coalition est en panne depuis sa création. Pour Pancras Levou, les composantes de la coalition de Diefa créée le 14 avril dernier sont celles qui avaient pesé lourd pour l'élection du président Patrice Talon en 2016. Selon lui, le président devrait s'appuyer sur la coalition Diefa pour opérer les réformes promises au peuple béninois. Enfin, sur Mohamed Salah, Moussa Ibni Moussa Adouma estime que la performance de l'Égyptien est une fierté pour l'Afrique tout entière. Cependant, il se demande si Mohamed Salah pourra faire mieux que Didier Drogba et Samuel Eto'o au Mondial 2018. Merci à Keita Mabana qui nous a rejoints sur la page Facebook et continuez à aimer notre page.
Merci Enondri pour ces messages préparés par Sandra Bassabam. Alors, docteur Fodé, en un mot, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à donner une conclusion générale en répondant à la question d'un auditeur qui estime qu'il faut que la justice française laisse les chefs d'État africains tranquilles en évoquant une possible inculpation du président Alpha Condé.
Mais écoutez, je pense que dire à la justice française de ne pas continuer les enquêtes, c'est de ne pas aimer les pays africains. Elle doit plutôt continuer, obliger les chefs d'État à respecter les codes au moins du marché public. Les chefs d'État, ce n'est pas parce qu'ils sont présidents qu'ils ne peuvent pas être coupables. Nous demandons, nous, en ce qui nous concerne, dans ce dossier Bolloré,
qui ne peuvent pas d'abord être justiciables.
Voilà. Nous demandons absolument à la justice française de continuer les enquêtes. Je suis sûr que dans mon pays, le ministre de la Justice n'osera jamais interpeller le président Alpha Condé. Je vous ai dit que dans ce pays, il n'y a pas de démocratie. Monsieur Alpha Condé est le chef de l'État, président de la Guinée, mais il est aussi le président de toutes les institutions, parce que toutes les institutions de la Guinée...
Et en tant que président, il bénéficie aussi d'une immunité, non, monsieur Fofana?
Absolument, non, mais il bénéficie d'une immunité.
Donc, c'est normal qu'il ne soit pas inquiété pour le moment.
Le président a juré sur la constitution guinéenne de respecter la loi et de faire respecter la loi. Si le président faillit, il ne respecte pas la loi.
Merci.
La justice s'impose à tout le monde et la loi c'est pour tout le monde et personne ne peut se soustraire à la loi.
Merci.
Je pense honnêtement que si M. Alpha Condé est coupable de corruption dans le dossier Bolloré, il doit répondre. D'ailleurs, dans ce pays, je vous ai dit qu'il n'y a pas de justice. Vous rappelez même le dossier du 26 septembre où il y a eu plus de 150 personnes tuées au stade 26 septembre. Jusqu'aujourd'hui, le ministre de la Justice est incapable de faire la justice pour les...
Mais pour l'instant, les choses bougent et malheureusement, le temps ne nous permet pas de poursuivre et d'aller plus loin. Vous étiez notre invité, docteur Fodé Oussou Fofana. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, principal parti politique d'opposition, journaliste invité cette semaine, Georgette Evelyne Amen Yélian Kenoum, directrice de publication du quotidien béninois Kini Kini. Réalisation Abdou Diop, chargé de production Sandra Bassabam et Thierry Richard Mbodkidina. Vous pouvez écouter cette émission ou la réécouter sur nos sites internet respectifs bbcafrique.com et africa1.com et faites-nous part de vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. L'adresse est facebook.com/débat BBC Africa. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine et Francis Laloupo sera avec nous. Bon week-end.
Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique.